organiser sa transmission en protégeant ses proches avec Lynxéa.
Voilà, on se retrouve pour cette matinale de Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants qui est consacré à l'organisation de la transmission. Alors c'est vrai qu'on a parlé des donations du vivant, on a parlé des testaments, mais c'est aussi important de prévoir, de protéger ses proches à son décès. Un décès, ça peut être une baisse importante de revenus pour la famille et donc pour les proches survivants, eh bien, un capital, une rente peut être bienvenue. Pour parler de cette question très importante, j'accueille Carole Dambrun. Pardon. Vous êtes directrice de l'ingénierie patrimoniale chez Lynxéa. Bonjour.
Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous.
Alors, est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous présenter Lynxéa ?
Avec plaisir. Donc, Lynxéa, c'est un acteur majeur de l'épargne en ligne qui fête cette année ses 20 ans.
Et qui travaille... Bon anniversaire.
Oui, merci. On va le fêter dignement. Et qui travaille avec un certain nombre de partenaires assureurs de renom, tels que Generali, Suravenir, Spirica ou encore Apicil. Alors, pour les adeptes des chiffres, je vais en donner deux quand même. Lynxéa, c'est 52 000 clients, 2 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Et l'ADN de Lynxéa, c'est vraiment plus de conseils et moins de frais. D'ailleurs, le pôle patrimonial que je représente aujourd'hui se structure en ce sens et nous disposons déjà d'une équipe de conseillers qualifiés et certifiés CIF, conseillers en investissement financier.
Oui, merci de préciser, qui sont eux-mêmes effectivement agréés, enfin
qui sont certifiés, voilà, oui, tout à fait. Voilà, qui ont la compétence pour apporter donc du conseil patrimonial auprès de nos clients.
D'accord, très bien, merci. Alors Carole, pourquoi faut-il protéger ses proches alors que après tout, on a un système de protection sociale assez généreux, qu'il existe des régimes obligatoire qui verse déjà un capital décès, par exemple. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin de quand même protéger ses proches ?
Alors merci déjà Jean-Philippe de le rappeler, parce que c'est vrai que souvent leur existence en fait de ces régimes est assez méconnue. Alors quand vous dites assez généreux, non. C'est-à-dire que le montant du capital versé dans le cadre du régime obligatoire, donc dans le cadre de la sécurité sociale, est très faible. Ça couvrira à peine, en fait, pour faire simple, les frais funéraires. Et puis en ce qui concerne donc les contrats de prévoyance dans l'entreprise, j'allais dire ça dépend de plusieurs critères. Donc ça va dépendre de la taille de l'entreprise, de la catégorie socio-professionnelle de l'adhérent et évidemment des garanties définies au contrat. Et même si l'adhérent fait partie des mieux lotis, donc à savoir il est salarié dans une grande entreprise avec un contrat qui offre quand même certaines garanties, de toute façon, les capitaux versés seront insuffisants pour couvrir le montant des droits de succession et entretenir notamment les biens immobiliers.
D'accord.
Donc évidemment, il faut prévoir des solutions. Et puis en plus, vous avez certaines professions qui ne sont pas du tout couvertes. Donc j'entends par là les travailleurs non salariés, donc qui exercent soit en nom propre, soit à travers leur SARL, et sans compter aussi les dirigeants de SAS qui, eux, ont un statut d'assimilé salarié.
D'accord. Juste en préambule, effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est pour le régime général, donc en gros pour les salariés, le capital décès n'est plus proportionnel, n'est plus...
Il est versé sous condition.
Voilà, c'est assez récent. Mmh. Et forcément, ça pénalise, exactement, en fait, les hauts revenus, puisque, en gros, tout le monde touche le même capital décès, quel que soit le revenu, enfin, le salaire du défunt. Et puis, c'est vrai que vous avez fait référence au contrat collectif, au contrat de prévoyance dans les entreprises. Il faut juste rappeler qu'à partir du moment où on a le statut cadre, on a forcément, puisque c'est une obligation légale, une obligation réglementaire, on bénéficie forcément d'un contrat collectif de prévoyance. Et puis, il y a des accords de branche professionnelle, qui fait que là aussi, il y a une obligation de contrat collectif de prévoyance. Mais cette fois-ci, pour tous les salariés, vous l'avez dit, ça, on parle beaucoup des salariés. Pour les non-salariés, c'est pas pareil. Et puis, par exemple, quand on part à la retraite, on ne bénéficie plus de ces contrats d'entreprise.
Non, de cette couverture. Et puis, il faut savoir que ce sont des contrats de prévoyance qui coûtent très cher. C'est d'ailleurs pour ça que les travailleurs non salariés, en fait, ne souscrivent pas à ce genre de contrat parce que le coût est dissuasif. Donc, il y a toute une population qui n'est pas couverte, en fait, par ces contrats de prévoyance. Et je vous disais, même ceux qui sont couverts, de toute façon, le besoin financier sera beaucoup plus important que, finalement, le capital laissé aux bénéficiaires.
D'accord. Dans quelle situation faut-il tout particulièrement protéger ses proches ?
Alors, j'allais dire qu'il est bien évident que dès que le patrimoine atteint un certain montant, le besoin financier va être lui aussi très important et va se faire ressentir d'autant plus. Mais ce n'est pas qu'une question de montant de patrimoine. Je pense que ça va au-delà. Et la question est vraiment, en fait, une question de situation ou de problématique. Donc j'entends par là, par exemple, quand on a des familles recomposées avec des enfants de différents lits, quand on a un enfant handicapé également, quand on a un conjoint qui a peu ou pas du tout travaillé, sans oublier justement les chefs d'entreprise, ou quand on a des situations qui comprennent un patrimoine privé et un patrimoine professionnel. Parce qu'on oublie souvent, en fait, que l'entreprise ou les parts de société sont des actifs taxables comme les autres, en fait, au regard des droits de succession. Et on dit souvent, en fait, que c'est pas parce que le chef d'entreprise est décédé que le téléphone s'arrête de sonner. J'entends par là que le lendemain du décès, il y a toujours peut-être des salariés à rémunérer, des fournisseurs à régler, des factures à payer. Et c'est pas parce qu'on est héritier qu'on a le pouvoir de gestion de l'entreprise.
D'accord. Donc juste pour résumer, en fait, plus on a quand même de revenus, plus on a une situation familiale atypique, un petit peu compliquée, on va dire, et plus on a intérêt à prévoir pour l'après, pour une fois qu'on est disparu.
Effectivement, il y a ces situations spécifiques demandent vraiment une organisation en amont. Enfin, en tout cas, de s'interroger et effectivement de se poser quelques questions quand même.
D'accord. Alors, une fois qu'on a pris conscience de l'importance de protéger ses proches, par quel contrat faut-il souscrire ?
Alors avant, au risque d'enfoncer des portes ouvertes, pardonnez-moi, mais je souhaite rappeler que le décès d'un proche, c'est toujours une étape de vie. C'est toujours psychologiquement difficile et il y a beaucoup de choses à gérer. Donc le besoin, enfin le souci du besoin financier ne doit pas venir s'ajouter en fait au chagrin de la perte de l'être cher.
Donc, d'accord, donc ce que vous voulez dire, proches, c'est que c'est aussi une manière d'alléger la peine, enfin... Que, voilà, c'est une situation qui est déjà assez compliquée comme ça, c'est pas la peine d'en rajouter.
Exactement. Si les proches savent qu'ils sont déjà à l'abri du besoin financier, c'est vrai que, alors c'est toujours difficile de gérer et de se rendre compte effectivement de la perte de cet être cher, mais disons que s'ils savent qu'ils n'auront aucun souci financier, ça risque effectivement d'alléger quand même leur peine quelque part. Donc il y a plusieurs solutions et notamment chez l'INCEA, on préconise en fait des dispositions juridiques, de prendre des dispositions juridiques mêlées à des solutions assurantielles, parce que chacune des solutions vont avoir donc leurs avantages et leurs limites. Alors parmi les contrats d'assurance, on va évidemment retrouver la garantie obsèques. Comme son nom l'indique, c'est pour dédié au financement des frais funéraires. Alors il y a plusieurs types de contrats, il y a deux grands types de contrats pour faire simple. Hein. Vous avez la garantie obsèques à capital et la garantie obsèques à capital et prestations. Où là, on va conjuguer l'action d'un assureur avec une société en fait de pompes funèbres. Et en plus du versement d'un capital, le contrat permettra de choisir certaines options en fait obsèques qui seront définies à l'avance par l'assuré. Alors parmi les autres contrats, on va retrouver évidemment l'assurance décès. Donc là, l'idée, c'est de déterminer en amont en fait le besoin financier, le montant dont les bénéficiaires auront besoin. Donc il faudra faire un inventaire, effectivement, se poser les bonnes questions. Et l'idée, c'est de dire, je souhaite que mes enfants touchent un capital, par exemple, de 100 000 euros à mon décès. Donc à ce moment-là, l'assureur va calculer une cotisation. Éventuellement, il va vous faire passer un examen médical aussi. Donc vous pouvez être refusé à ce type d'assurance. Mais au moins, vous êtes assuré qu'à votre décès, vos enfants toucheront le capital que vous avez déterminé.
Si je n'ai pas cotisé à hauteur de 100 000 euros à mon décès, si malheureusement, en fait, j'ai un accident de voiture, que je meurs plus tôt que prévu, et que donc mes cotisations n'arrivent pas à 100 000 euros, est-ce que l'assureur versera quand même 100 000 euros.
Alors tout dépend le contrat que vous aurez choisi en fait. Il y a deux types de contrats. Il y a donc à durée déterminée ou il y a viager. Donc à durée déterminée, il faut que l'aléa, on va dire, se réalise dans la durée que vous avez estimée. Donc c'est-à-dire que vous estimez que votre décès va intervenir à telle date. Donc bon, sauf à avoir une boule de cristal, c'est quand même un exercice compliqué. Donc il faudra bien là encore choisir votre contrat et regarder les options offertes avec ce contrat et voir si ça vous correspond à vos objectifs.
D'accord.
Mais quoi qu'il en soit, sur ces deux types de contrats d'assurance, on a quand même des limites à savoir que ce sont des contrats qui sont souvent dits à fond perdu. C'est-à-dire que si vous en avez besoin, vous avez un imprévu en fait en cas de vie, et vous souhaitez retirer l'épargne ou en tout cas les cotisations versées, eh bien vous ne pourrez pas.
Oui, c'est pas de l'épargne, mais c'est un contrat de prévoyance.
Exactement. Donc c'est vraiment à fond perdu. Vous cotisez vraiment pour le bénéficiaire et le dénouement se réalise vraiment à votre décès. Donc en cas de vie, vous pouvez pas retirer. C'est là que rentre en jeu, j'allais dire, le contrat d'assurance vie qui va combler ces écueils. Et le fameux couteau suisse de l'épargne, hein, comme on a l'habitude de l'appeler, va permettre en fait d'assurer un capital à vos proches et vous permettre de retirer l'épargne en fait en toute disponibilité, sous forme de retrait partiel programmé ou même encore d'avance.
D'accord, d'autant que effectivement, on le dit, mais peut-être qu'on va le préciser, l'assurance vie a d'énormes avantages successoraux.
Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on peut, au-delà, en dessous d'un certain seuil, transmettre un capital à ses proches, effectivement, sans droit de succession ou sans prélèvement, en fait, notamment, je pense, au prélèvement de 20% au-delà des 152 500 par bénéficiaire.
Voilà, puisqu'il faut rappeler qu'effectivement, il y a une clause bénéficiaire où on
exactement,
peut désigner les personnes, là où les personnes de son choix, qui n'ont pas forcément besoin d'avoir un lien de parenté avec vous.
Non, vous pouvez nommer qui vous voulez.
Voilà.
Donc c'est vraiment une stipulation, c'est ce qu'on appelle une stipulation pour autrui, c'est-à-dire que c'est comme un peu un testament, on désigne qui on souhaite, et on peut multiplier d'ailleurs ses bénéficiaires, hein, mais on désigne qui on souhaite en fait dans la clause bénéficiaire.
Et donc pour les primes versées avant 70 ans, il y a un abattement par bénéficiaire désigné de 152 500 euros, ça veut dire que le bénéficiaire peut toucher jusqu'à 152 500 euros en franchise d'impôt. C'est quand même très intéressant.
Oui, et l'idée, c'est aussi de multiplier justement ces bénéficiaires parce que vous allez multiplier les abattements, forcément. Donc ça aussi, c'est des stratégies, évidemment, qu'on met en place. Donc, à ces solutions assurantielles, on préconise, je vous disais, nous aussi, chez l'INCEA, donc, les dispositions juridiques. Et parmi les dispositions juridiques, vous en avez parlé tout à l'heure, on peut retenir en tout cas la donation au dernier vivant pour protéger son conjoint, pour le privilégier évidemment, ou la rédaction d'un testament, ou encore, en présence d'un patrimoine professionnel notamment, le mandat de protection future ou le mandat à effet posthume. Donc vous voyez que votre question n'est pas si simple en fait, et que l'idée, c'est en fonction de la situation, en fonction de la problématique, il faudra sans doute en fait une conjugaison de toutes ces solutions. Et je dirais, le bon conseil, c'est plutôt de multiplier les briques.
D'accord. Alors justement, par rapport à toutes ces briques, où on voit bien qu'il y a des briques juridiques, il y a des briques financières, enfin bon,
il y a... Et il y en aura des fiscales aussi.
Voilà, fiscales, enfin donc ça fait beaucoup de briques.
Ça fait beaucoup de briques, oui.
Voilà. Par qui faut-il se faire conseiller ?
Alors, je dirais que l'idée, c'est de faire un inventaire de la situation. Et pour moi, l'interlocuteur privilégié, c'est le conseiller en gestion de patrimoine, qui lui, en fait, aura toutes les compétences pour faire cet inventaire, compétences juridiques, fiscales et financières, et il fera un audit patrimonial. Et le cas échéant, il pourra s'appuyer, comme d'ailleurs nous le proposons chez l'INCEA, il pourra s'appuyer sur un réseau d'experts, tels que notaire, expert comptable ou avocat fiscaliste.
S'il a une question, s'il a un cas très très particulier, il a un réseau d'experts vers qui
normalement
se tourner.
En tout cas, nous, chez l'INCEA, oui. Nous avons un pôle d'experts avec qui on a noué donc des partenariats. Et quand on a besoin d'un expert complémentaire en fait à nos solutions préconisées, eh bien, on va chercher cet expert. J'allais dire, le conseiller en gestion de patrimoine, c'est un peu l'équivalent de votre médecin généraliste. Donc il va faire le diagnostic, il va faire un check-up, il va vous demander vos antécédents et il va dire là où ça fait mal.
D'accord.
Et à ce moment-là, il va vous demander d'aller voir tel ou tel spécialiste pour traiter donc le point névralgique.
D'accord. Et à partir de quel âge il faut commencer à se soucier de tout ça ? Vous allez me dire que ça dépend des
exactement.
Cas.
Exactement. Il n'y a pas d'âge, en fait. Je dirais que c'est plutôt la situation. Parce que si vous héritez d'un gros patrimoine à 30 ans, vous avez déjà des questions et vous avez déjà une vraie problématique. En plus, vous en avez parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que si on veut anticiper la transmission de son patrimoine pour limiter les coûts fiscaux, les donations, le rappel fiscal, c'est tous les 15 ans. Donc 15 ans, c'est long. Donc j'allais dire, plus tôt on commence à se poser des questions, mieux c'est. Mais c'est vrai qu'en général, on est plutôt en constitution de patrimoine. Et puis, c'est autour de 40, 45 ans, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Non seulement en termes de retraite, hein, de complément de retraite aussi, puisque ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais oui. Il y a quand même cette problématique.
Et, oui, c'est-à-dire que c'est bien de donner, mais il faut quand même penser à soi et à son futur.
Enfin, exactement, parce que si vous donnez, certes, c'est bien, vous adorez vos enfants et c'est parfait, on n'en doute pas. Le problème, c'est qu'il faut quand même se ménager un capital pour soi. Donc, il ne faut pas se dessaisir n'importe comment. Après, tout dépend, là encore, du patrimoine dont vous bénéficiez, que vous avez constitué ou que vous avez hérité.
Ok, ben merci beaucoup pour tous ces conseils, c'était assez, assez complet. On va passer maintenant à la séquence questions des internautes.
Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants.
Oui, alors Carole, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a deux types de questions des internautes. Les internautes, au moment de l'inscription, peuvent poser des questions en amont du live. Et puis après, c'est tout l'intérêt du live, bien sûr, c'est que les internautes peuvent poser en direct des questions grâce au chat. Alors, justement, pour les questions en amont, il y avait la question assez simple, mais je pense que c'est important d'y revenir. L'assurance vie peut-elle permettre de protéger ses proches ?
Eh bien oui, comme je vous l'ai dit, en fait, l'assurance vie, c'est vraiment le couteau suisse donc de l'épargne. Donc on peut se constituer en fait une épargne, verser régulièrement et faire des retraits pour soi. Donc ça peut être un pur produit, on va dire, de capitalisation. Mais c'est aussi et surtout, en cas de décès, de pouvoir transmettre un capital à ses proches. Et comme on l'a dit, vous avez un abattement donc de 152 500 euros et puis ensuite, il y a un deuxième seuil, donc au-delà de 700 000, par bénéficiaire. Donc l'idée, c'est vraiment de multiplier les bénéficiaires, donc soit sur le même rang, ça peut être par exemple de privilégier quand même le conjoint, de mettre mon conjoint et mes enfants, donc on pourrait très bien mettre mes conjoints à hauteur de 70% ou 80% du capital, si vraiment l'idée c'est de laisser des capitaux d'abord aux conjoints, et ensuite de mettre pour les 20 ou 30% restants, de dispatcher par parts égales entre les enfants. Donc ça peut être une première approche pour gratifier, j'allais dire, tout le monde au premier décès. Après, en fonction de la situation et des besoins justement de ce conjoint, est-ce qu'il a travaillé ou pas, il aura de gros besoins financiers si l'autre conjoint décède. À ce moment-là, l'idée, c'est de prévoir des bénéficiaires de différents rangs, voire éventuellement d'opter pour un démembrement même de la clause bénéficiaire. Donc il y a plein de solutions, en fait, avec cette rédaction de clause bénéficiaire, et on doit vraiment s'attacher à bien rédiger cette clause.
D'accord. Alors, juste une petite précision aussi, hein, pour les primes qui sont versées après les 70 ans du souscripteur, l'abattement non seulement est commun, donc c'est-à-dire il est partagé entre tous les bénéficiaires à part égal, mais en plus, il n'est pas de 152 500 euros, mais de 30 500 euros.
Oui, et l'assiette de taxation n'est pas la même. C'est-à-dire que pour le 152 500 euros, c'est la valeur de rachat qui va être prise en compte. En ce qui concerne les primes versées après 70 ans, c'est les primes versées hors les intérêts. Donc les intérêts ne sont pas pris en compte dans cette valeur de rachat complète. Donc l'abattement va s'appliquer seulement sur le montant des versements effectués.
D'accord. Bah de toute façon, c'est quand même moins avantageux après 70 ans qu'avant 70 ans, pour faire simple.
Pour faire simple, oui. Maintenant, c'est pareil. J'allais dire, on peut le mettre en place parmi des stratégies parce que c'est moins intéressant que quoi ? C'est-à-dire que si vous laissez ces sommes-là sur votre compte courant, c'est l'intégralité, finalement, de votre compte courant qui va être taxée au regard des droits de succession. Alors que si vous le versez en assurance vie, finalement, vous aurez quand même bénéficié de cet abattement de 30 500 euros. Et si on a bien optimisé, j'allais dire, le reste de la succession, et c'est là où on a besoin d'un accompagnement, en fait, ça veut dire que c'est les premières tranches du barème qui vont rentrer en ligne de compte. Donc au final, entre l'abattement et si on est dans les premières tranches du barème, on va dire la fiscalité dissuasive des droits de succession, qui fait un peu peur comme ça de premier abord, eh bien n'est pas forcément si prohibitive que ça.
D'accord. Comment bien rédiger une clause bénéficiaire ?
Alors, c'est ce que je vous disais, là encore, il faut s'attacher, en fait, les conseils d'un expert. Parce qu'on a plein de possibilités sur ces clauses, et notamment de prévoir, pourquoi pas, je vous le disais tout à l'heure, le démembrement de la clause bénéficiaire, la répartition entre les différents bénéficiaires. Donc l'idée, c'est de multiplier éventuellement les bénéficiaires pour multiplier les abattements fiscaux, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait également prévoir tout ce qui est renonciation. Parce que ce n'est pas un scoop, je vous dirais que maintenant, on hérite de plus en plus tard. Et c'est vrai qu'au moment du décès, on a souvent rédigé la clause standard. Enfin, on a choisi la clause standard qui est mon conjoint, à défaut mes enfants, à défaut mes héritiers légaux, pour faire simple.
En fait, la plupart des contrats intègrent une clause de bénéficiaire standard, où effectivement, c'est le conjoint survivant, et si le conjoint survivant est décédé, ce sont les enfants. Mais justement, il y a la possibilité de changer cette clause standard, de la personnaliser.
Exactement, ou de prévoir d'autres stratégies. C'est-à-dire que souvent, effectivement, on a choisi la clause standard, mais comme on hérite de plus en plus tard, le conjoint n'a pas forcément besoin des montants ou de la totalité des montants qui sont sur ce contrat-là. Et l'idée, c'est de passer à la deuxième génération, donc aux enfants, voire aux petits-enfants. Et si la clause est bien rédigée, on pourra prévoir une renonciation, pourquoi pas, du conjoint, en faveur donc des seconds bénéficiaires ou des autres bénéficiaires de premier rang qui auraient été logés sur cette clause bénéficiaire, qui auraient été désignés finalement en même temps que le conjoint. Et donc les capitaux auxquels le conjoint va renoncer, eh bien, va passer à la seconde génération, c'est-à-dire aux enfants, avec la fiscalité qu'on connaît, mais en tout cas, les sommes issues de ce contrat d'assurance-vie ne vont pas se retrouver dans le capital donc, de ce conjoint survivant et ne risquent pas d'être de nouveau retaxées au droit de succession. Donc c'est une forme de donation, si vous voulez, sans qu'on le dise, finalement, mais c'est une des modalités aussi d'optimisation de la transmission de son patrimoine.
Et pour que le conjoint ne soit pas trop pénalisé, on peut aussi décider de partager le bénéfice entre le conjoint survivant vivant et les enfants. Il faut les mentionner en pourcentage, hein, c'est ça. Il faut pas le mentionner en euros, mais en pourcentage.
Voilà, en pourcentage, ça c'est très bien, ou par parts égales. Alors j'allais dire attention, hein, par parts égales ou en pourcentage, juridiquement ça veut pas dire la même chose. Justement, en cas de renonciation, il faudra faire très attention parce que 50-50 ou par parts égales, on imagine que juridiquement c'est la même chose. Sauf que si on a mis par exemple le conjoint à hauteur de 50% et mes enfants à hauteur de par parts égales, 25-25, si le conjoint en fait souhaite renoncer et donner en fait pour ses enfants, eh bien si on a limité la part de capital en pourcentage au profit des enfants, donc 25-25, juridiquement l'assureur ne pourra pas verser la part du conjoint renonçant aux enfants. Donc il faudra aller chercher le bénéficiaire de second rang, sauf que souvent les bénéficiaires de second rang, c'est mes héritiers légaux, et du coup on va retomber sur les mêmes. Donc on tourne, si vous voulez, en rond, et on va retourner sur mes héritiers légaux. Donc c'est les héritiers légaux au sens de la dévolution successorale. Et dans ce cas-là, qui seront les héritiers légaux au sens de la dévolution successorale? C'est mon conjoint, souvent en usufruit d'ailleurs, et mes enfants en eu-propriété. Donc là, on va se retrouver même avec un démembrement sur les fonds qu'on n'aurait pas souhaité, parce que le but, c'était quand même de donner des fonds bien en sûr. Pleine propriété aux enfants. Donc là, on n'a pas rempli en fait l'objectif. C'est pour ça qu'il faut bien s'attacher, en fait, les conseils d'un expert pour rédiger cette fameuse clause.
D'accord. Une question des internautes sur le chat. Quelle est la limite du don manuel? Est-ce qu'il y a un pourcentage du patrimoine qu'on peut donner manuellement maximum par an?
Alors, sur le don manuel, non, vous pouvez tout donner. Après, la limite, elle va être fiscale. Souvent, c'est ce qui fait mal au portefeuille, j'allais dire. Donc, il n'y a pas de limite. Mais peut-être que là, l'internaute veut parler plutôt du présent d'usage.
Peut-être, je vous dis ce qui est... Mais effectivement, je pense que c'est très important peut-être d'expliquer ce qu'est le présent d'usage et ce qu'est le don manuel aussi.
Alors le don manuel, on va dire littéralement, c'est le don de la main à la main. Donc dans l'ancien temps, on donnait de la main à la main. Donc on a gardé en fait ce fameux historique.
Donc en fait, clairement, c'est tout sauf les dons immobiliers.
Exactement. Ça peut être des valeurs mobilières ou de l'argent. Non. Voilà.
Ou des bijoux, ou une voiture, ou...
Oui, enfin... Ça, faut faire très attention parce que vous ne pouvez pas le déclarer comme on le souhaite. Donc, le don manuel, c'est précisément, on va dire, donc, des valeurs mobilières ou de l'argent. Donc, le don manuel, il peut être fait sous sein privé, c'est-à-dire vous avez un imprimé CERFA sur le site des impôts. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller voir un notaire. Il suffit de l'enregistrer auprès de l'administration fiscale et votre don est bien enregistré. Sachant que le don doit être enregistré par le donataire, donc celui qui reçoit. Et les droits, normalement, sont à payer par ce fameux donataire. Alors, sachant qu'il y a quand même une tolérance fiscale de la part de l'administration, où le donateur, donc celui qui donne, peut prendre en charge les frais de donation, les droits de donation, sans que ce soit compris comme une donation supplémentaire.
Et ça, c'est un vrai avantage aussi de la donation par rapport à la succession, parce que forcément, la succession, bah, malheureusement, le défunt, il est mort, donc il ne va pas pouvoir prendre en charge les droits de succession de ses héritiers. En revanche, effectivement, le donateur peut payer les droits de succession dont est assujetti le donataire.
Exactement. Donc c'est un vrai avantage. Et encore, j'allais dire là, on le dit comme ça, mais sur certains actifs qui peuvent être donnés, alors je vais un peu dévier, mais notamment sur l'entreprise, vous avez même une réduction encore de droits de 50% si vous donnez les parts de votre entreprise. Donc c'est un avantage supplémentaire par rapport à la succession. Mais c'est vraiment fait justement pour faciliter les transmissions et même, j'allais dire, pour pousser les donateurs, en fait, à transmettre à l'autre génération.
D'accord. Donc là, Carole, on a parlé des dons manuels. Qu'est-ce que ça veut dire, ces présents d'usage ?
Alors, le présent d'usage, c'est un cadeau, d'accord ? Donc, quelle est la limite du cadeau et du don ? C'est toujours la question qu'on se pose. Alors, l'administration fiscale ne nous donne pas de véritable définition. Donc, on navigue, on va dire, en eau un peu floue, trouble.
Mais on m'a dit que la jurisprudence disait qu'en gros, il ne faut pas que ça soit 2% du patrimoine et des revenus du donateur.
Alors, il n'y a rien d'inscrit. Alors après, effectivement, on peut se baser sur la jurisprudence et c'est comme ça qu'on arrive, bon an, mal an, à trouver certaines limites. Malgré tout, déjà, le présent d'usage, c'est un cadeau. Donc un cadeau, ça intervient à un événement particulier. Donc,
Noël, anniversaire, le bac, le permis de conduire,
un diplôme,
les fiançailles,
le mariage, le baptême. Donc déjà, on doit avoir un événement particulier. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un virement tous les mois, par exemple. Ça, ce n'est pas envisageable et ça ne pourra pas être considéré comme un présent d'usage. Il faut que la somme, en fait, soit raisonnable parce que quand vous faites un cadeau, vous n'allez pas vous mettre en situation de surendettement. Et ce que nous dit l'administration fiscale, c'est que ce présent d'usage doit être en rapport avec votre patrimoine. Donc on n'a pas de montant. Donc si vous avez un patrimoine de 10 millions d'euros et que vous offrez à votre fils une Ferrari, j'allais dire pourquoi pas ? Ça peut tout à fait s'envisager. Maintenant, si vous lui offrez une Ferrari alors que vous êtes sans activité professionnelle et que vous avez du mal à joindre les deux bouts en fin de mois, ça va être difficilement requalifiable en présent d'usage. Donc, en fait, j'allais dire, tout est une question de mesure. C'est comme tout. Et tout est une question de mesure et de rester effectivement dans à peu près cette norme.
D'accord. Donc, en sachant que le grand intérêt du présent d'usage, on a oublié de le dire, c'est qu'il n'est pas soumis au droit de donation.
Donation ni de succession.
Puisque ce n'est pas considéré comme un don, comme une donation. Y a une question d'un internaute qui va vous faire plaisir. Comment trouver un agent l'INCEA ?
Eh bien, il suffit de nous appeler. Vous pouvez nous trouver facilement en ligne. Hein. On est un acteur majeur de l'épargne en ligne. Donc, je pense que vous n'aurez aucune difficulté pour nous trouver, pour trouver notre numéro de téléphone sur Internet.
OK. Une question, là, cette fois-ci, qui a été posée en amont. Quelle est la différence entre le contrat de capitalisation et l'assurance-vie ?
Oui, question très intéressante, parce qu'effectivement, on connaît très bien le contrat d'assurance-vie. Hein, c'est quand même le placement préféré des Français, il faut le rappeler. Mais le contrat de capitalisation, beaucoup moins. Pourtant, c'est son petit cousin. C'est-à-dire que d'un point de vue, on va dire, épargne, il fonctionne de la même manière, pour faire simple, que le contrat d'assurance-vie. Donc, vous avez la même fiscalité que l'assurance-vie en cas de retrait. Là où il y a une grosse différence, c'est sur l'aspect successoral. À savoir que l'assurance-vie, comme on l'a dit et rappelé, vous allez désigner un bénéficiaire et c'est surtout hors droit de succession. Le contrat de capitalisation, en revanche, est un actif qui est taxable au regard des droits de succession.
Alors, donc, c'est vrai que quand vous dites ça, on se dit que c'est moins intéressant.
Effectivement.
Mais il y a des fois où non.
Exactement. Il y a quand même un gros avantage à ce fameux contrat de capitalisation. C'est que, effectivement, d'un point de vue successoral, il va intégrer la masse taxable comme tout autre actif et être taxé au regard des droits de succession. Le gros avantage du contrat de capitalisation, c'est qu'il ne se dénoue pas donc au décès du souscripteur. Donc déjà, il peut s'hériter. D'ailleurs, il s'hérite. Donc la bonne astuce, c'est de le loger, par exemple, sur un testament, de le nommer et de le léguer à un de ses enfants. Parce que si on ne fait rien, les enfants vont se retrouver en indivision sur ce contrat. Où l'idée, c'est d'en souscrire plusieurs, éventuellement, et de léguer, en fait, chaque contrat de capitalisation à chacun des enfants pour éviter, justement, cette situation d'indivision. Mais au-delà de ce legs et de ce non-dénouement, en fait, au décès du souscripteur, c'est que, contrairement au contrat d'assurance-vie, le contrat de capitalisation peut faire l'objet d'une donation. Et donc, il peut se donner de son vivant, que ce soit en pleine propriété ou en démembrement. Ça veut dire que vous pouvez très bien souscrire, vous, aujourd'hui, un contrat de capitalisation, décider dans quelques années d'effectuer votre transmission de patrimoine en faveur de vos enfants et de donner la nue propriété d'un contrat de capitalisation tout en vous réservant donc l'usufruit, donc de bénéficier des fruits du placement justement pour votre retraite et de conserver cette antériorité fiscale. Parce que le gros avantage, c'est que lors de cette donation ou de ce legs à la succession, on va considérer la date d'antériorité fiscale initiale, enfin de la souscription initiale. Donc vous pouvez très bien déjà donner en fait un véhicule de placement qui est défiscalisé à vos enfants.
Parfait, très bien. Bravo. Ben merci beaucoup.
Merci
beaucoup,
à vous,
Carole. Chers internautes, on va continuer notre matinale sur la transmission par un autre atelier qui va démarrer d'ici 15 petites minutes. Et entre-temps, vous aurez plein de vidéos super intéressantes à regarder. Là, cette fois-ci, on va aller un petit peu plus loin. On va voir comment optimiser sa succession. Clairement, comment faire en sorte que ses héritiers payent le moins de droits de succession possible. À tout de suite.
Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants.